Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs habitudes, leur philosophie même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Mais passons maintenant et directement à mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Nègre, président de Intel France. Alors vous savez que j'aime avoir des invités avec des parcours variés sur le podcast. J'ai historiquement eu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs et encore trop peu de profils plus corporate. Vous m'en faites parfois à juste titre le reproche et j'en ai eu d'autant moins que je n'en ai pas eu du tout dans un secteur comme celui des semi-conducteurs, qui est le secteur d'Intel, et qui au premier abord pourrait paraître, je le conçois, un peu technique. Et pourtant, les messages passés par Stéphane durant cet épisode résonneront, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Quelques exemples. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Investir sur l'innovation. Se remettre en cause. Essayer à tout prix, quitte à échouer, parfois, comme Stéphane d'ailleurs m'en parlera durant notre conversation. Sans risque, on ne fait rien de réellement innovant. C'est une de mes convictions, mais aussi l'une des valeurs chères à Stéphane. Durant cette interview, je voulais vous prévenir, on a également évoqué à plusieurs reprises le légendaire fondateur d'Intel, Andy Grove pour les intimes, comme ça vous saurez qui c'est, et j'en suis moi-même très admirative, j'avais lu déjà ses bouquins, et je vous recommande d'ailleurs ces deux livres dont on parle dans l'épisode, le premier « Seuls les paranoïaques survivent » et le deuxième qui, je crois, n'existe qu'en anglais malheureusement, « High Output Management », qui est vraiment une bible du management. Je vous invite également à écouter l'épisode jusqu'au bout parce que Stéphane m'a gardé plusieurs perles pour la fin. Déjà son accident de VTT et sa volonté de se remettre, de retrouver la santé, de dépasser ses limites malgré les avis contraires de son entourage ou des médecins. Et puis aussi sa vision de l'organisation de son temps, comment réussir à s'organiser pour avoir ce qu'il appelle une 25e heure dans la journée. Autant de conseils qu'il nous partage de manière précieuse à la fin de notre conversation. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stéphane Nègre. Bonjour Stéphane et bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis très honorée de vous avoir. Alors je voulais commencer par vous dire que j'ai lu le livre de Andy Grove, tout le monde doit vous dire ça évidemment.
Il y en a eu plusieurs.
Tout à fait, alors moi j'en ai lu un seul qui s'appelle High Output Management en anglais, qui est donc Andy Grove, le fondateur d'Intel, pour ceux qui ne savent pas. Et j'avoue que depuis que j'ai lu ce livre, j'ai toujours eu quand même une sorte de fascination pour votre entreprise que je connais très mal. Et en plus moi je ne suis pas du tout scientifique, donc vous avouerez que je ne suis pas forcément la personne la plus pertinente pour vous poser des questions techniques. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais au niveau, en revanche, de la capacité d'innovation, d'adaptabilité, de remise en cause aussi de l'entreprise, j'ai trouvé en tout cas le discours d'Andy Grove absolument fascinant et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture de votre entreprise, d'autant plus qu'on sait quand même que le monde de l'électronique a pas mal évolué depuis les dernières années. Et donc, bon, tout ça pour dire que je suis tombée sur une citation de votre part sur Internet et on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, mais je voulais néanmoins vous la soumettre, que vous me donniez un petit peu votre avis dessus. Et pour moi, en fait, elle est très intéressante parce qu'elle témoigne de votre foi en l'innovation et notamment de cette foi, mais d'un autre côté qui est arbitrée par un cadre assez pragmatique. Je vous la lis et je vous laisse commenter. Donc, ce que vous dites apparemment, c'est « Une partie importante de l'innovation qui nous entoure vient de passion. Sans rêve, sans passion, on se limite. Sans beaucoup de travail, on ne rend pas réels nos passions et nos rêves. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux. » Alors déjà, première question, est-ce que c'est de vous ?
C'est une très belle citation. Et je ne sais pas, mot par mot aussi, elle est de moi, mais certainement, elle résume bien mon état d'esprit.
Bon, bah, tant mieux. Et alors, justement, je voulais que vous m'explicitiez un petit peu cette citation, si ça vous va, et que vous me disiez aussi dans quel contexte, peut-être, elle a été dite, si vous en rappelez, et surtout si vous aviez un exemple marquant qui, peut-être que cette citation vous évoque, tout simplement.
Alors peut-être je vais reprendre quand j'étais assez jeune ingénieur, fasciné par l'innovation depuis tout petit. On parle actuellement des 50 ans du premier homme sur la Lune, mais j'étais complètement fasciné par ça. Ça m'a forgé quand j'étais adolescent. Très naturellement, je suis allé vers des études d'ingénieur parce que c'est à l'époque ce qui représentait peut-être le meilleur potentiel d'innovation. J'espère que ça l'est toujours. Et puis de fil en aiguille, comme ça, dans l'industrie du semi-conducteur, de l'informatique, qui était quand même très innovante ou à des phases de démarrage. Je parle de fin des années 70, début des années 80. Et enfin, quand on cherche une activité professionnelle, les yeux étaient grands ouverts et brillants en regardant la société Intel, qui était le leader à l'époque, qui a inventé l'informatique et tout ce qui est le monde numérique qui nous entoure aujourd'hui. Donc, de ces innovations technologiques à en faire un monde numérique, il y a quand même une différence. Il y a beaucoup d'innovations. Moi, j'ai vu et j'ai cru et je crois toujours au fait que Intel soit, entre guillemets, une matière première pour les innovateurs. Ce que fait Intel comme société, c'est vraiment de la, pas de la recherche fondamentale, mais de la puissance de calcul qui est mise au service de gens qui vont imaginer ce qu'on peut faire avec. Et on pourra prendre beaucoup d'exemples. Mais en fait, c'est cette capacité de transformer des avancées technologiques. Des fois, elles sont importantes, des fois, elles sont moins importantes. En nouveauté complètement qui a été le tempo de toute ma vie et de tous mes intérêts et de mes passions.
Et justement, alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que on sent que donc vous avez ce désir d'innovation. Le pragmatisme, la réalité, souvent quand même nous rattrape. Une de mes questions, c'était vous en tant que dirigeant d'une entreprise comme Intel, à quel moment est-ce que vous vous permettez d'arrêter de rêver, plutôt que vous permettez, à quel moment en fait vous devez vous arrêter de rêver et vous devez dire ok, il y a la réalité, on ne peut pas aller aussi loin que ça dans l'innovation, parce que vous parliez d'innovation fondamentale, on peut aller très très loin dans l'innovation fondamentale. Et donc ma question, c'est quel est pour vous l'arbitrage et comment est-ce que vous opérez ces arbitrages? J'imagine que vous êtes très entouré, mais ma question, c'est comment, quand on est entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, comment savoir entre innovation, si on veut aller très très loin, poursuivre ses rêves, poursuivre ses passions, c'était cette citation, ou parfois en fait rentrer aussi dans le droit chemin et entre guillemets se plier au marché.
Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de rêver. ce serait trop triste et il faut toujours se donner des perspectives. Et là où je fais une séparation, ce n'est pas entre le rêve et le pragmatisme, c'est plutôt une séparation temporelle. Moi, je rêve de choses qui sont inaccessibles aujourd'hui, qui j'espère seront possibles dans 5 ou 6 ans. Ce rêve-là, 5 ou 6 ans de faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui, eh ben c'est aussi le moteur, c'est l'énergie du quotidien. Donc quand je pense ou je me projette, ce qui m'attire le plus, c'est une projection plutôt à moyen long terme, sachant qu'il y aura des efforts à faire pour y arriver.
Bien sûr.
Et on se rapproche du court terme. Donc c'est pas rêver ou être pragmatique, c'est faire ce qu'il faut pour essayer de rendre possible ses rêves.
Ouais,
et ça, c'est beaucoup d'efforts, fréquemment.
Bien sûr. En fait, c'est organiser le rêve, quoi.
Bien sûr.
Au-delà de ça, une autre question que je voulais vous poser, toujours sur cette thématique de l'innovation ou peut-être de la recherche fondamentale, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moment donné où, même si vous rêvez, si vous allez loin, évidemment, on peut échouer, on peut se tromper. Quand on innove, c'est normal et ça fait même partie de l'invention, je pense, du mécanisme de l'invention. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, certainement, au moment il faut changer de cap, où il faut faire pivoter peut-être une innovation. Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. J'ai évidemment beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui bien souvent me posent cette question et je ne sais absolument pas comment leur répondre. À quel moment, quand je pense que je dois innover et que j'ai cette vision, que j'ai ce rêve dont on parlait, j'ai cette passion, à quel moment est-ce que je dois me ranger à la réalité, entre guillemets, ça ne fonctionne pas, ou je n'ai pas suffisamment de cash devant moi, ou je n'ai pas suffisamment de temps, etc. À quel moment est-ce que je dois écouter cette petite voix qui me fait dire qu'il faut que je trouve autre chose et que cette innovation que j'avais rêvée n'est pas forcément exactement la bonne?
Bien souvent, le moment, c'est quand l'innovation, le rêve, etc., ne trouve pas son marché. C'est-à-dire qu'on continue et on a l'impression de se faire plaisir, mais ça ne débouche pas vers une création de valeur peut-être que l'on avait en tête. Et là, il y a deux signaux d'alarme. Un premier, on s'en rend compte soi-même. Et dans ce cas-là, il faut se remettre en question et peut-être changer de voie ou arrêter ce qu'on fait pour pour partir sur un plan B, un plan C ou d'autres innovations qu'on avait en tête, d'autres rêves, parce qu'il y en a toujours, il y en a toujours beaucoup, ça bouillonne. Un autre signal d'alarme, c'est quand votre investisseur ou le marché vous dit, là, c'est plus brutal. C'est-à-dire, vous avez cru en quelque chose et on fait toujours un effort pour progresser. Mmh. Et non, finalement, votre investisseur vous dit, on a fait suffisamment d'efforts, il n'y a pas le retour sur investissement escompté. Et donc, dans ce cas-là, l'arrêt est plus brutal. Et il est plus émotionnel. Pas uniquement pour la personne qui portait grève, mais ce que ça veut dire pour des équipes, ce que ça veut dire pour des gens, de se remettre en cause. Et là, c'est difficile. Et dans une carrière, ça arrive. Si ça n'arrive pas, c'est qu'on n'a pas suffisamment rêvé. C'est-à-dire qu'on a fait des choses qui étaient relativement naturelles. Donc, pour pouvoir arriver vraiment à progresser ou amener des innovations qui sont réelles, il faut avoir aussi tapé un petit peu dans le dur d'innovations qui n'ont jamais rien donné.
Mmh. Bien sûr, oui, c'est ça. Donc, en fait, pour vous, le droit à l'erreur et le droit à l'échec, ça vous parle, quoi. Parce que j'imagine que quand on n'essaye pas, qu'on ne prend pas de risque.
Le droit à l'erreur, il est primordial. Mmh. Déjà par apprentissage qui embarque. Et moi, si on ne laisse pas une personne faire une erreur, c'est-à-dire on ne lui autorise pas à prendre des risques, donc elle va pas vraiment apprendre, ou elle va pas être convaincue par elle-même de ça. Après, le droit à l'erreur, il doit être permanent, mais pas toujours sur les mêmes erreurs. C'est-à-dire si personne fait toujours la même erreur, elle n'a pas appris, ça c'est un autre problème.
Ouais.
Mais sans droit à l'erreur, on est plus bridé. Et certainement moins créatif et moins innovant.
Bien sûr. Vous auriez des exemples, alors sincèrement, ça peut être dans votre vie même personnelle, hein, si vous le souhaitez, ou dans le cadre d'Intel ou même d'autres entreprises que vous avez en tête, mais justement, où ce droit à l'erreur a été primordial, ou peut-être même simplement d'une erreur que vous auriez commise ou que quelqu'un aurait commise, enfin, sans responsabiliser qui que ce soit, mais voilà, une innovation qui aurait échoué, mais que vous ne regrettez pas parce qu'elle aura appris peut-être. Quelque chose d'intéressant qui aura permis d'aller ensuite plus loin vers une autre innovation.
Je prendrai des exemples qui sont peut-être liés. Il y a des activités de R&D qu'on ait pu faire, notamment en France, dans le cadre d'Intel. Intel a été souhaité être plus présent sur le domaine des smartphones quand le domaine des smartphones était en pleine croissance.
Ouais.
Aujourd'hui, le marché était un petit peu stable, mais il était en pleine croissance. Et donc, réflexion à l'intérieur d'Intel, il faut augmenter nos capacités de R&D, il faut peut-être les délocaliser, il faut être présent et innover sur le marché. Donc, on a investi et la France était un des pays qui a tiré le plus d'investissements R&D d'Intel sur ces domaines-là. Donc, on s'est investi, on a réalisé le premier téléphone en Intel qui a été commercialisé en France, dans le monde.
Qui était dans les quelles années autour de
C'était quelle année en 2010.
D'accord.
2012, pardon,
2012.
Le lancement
okay.
du premier téléphone commercial, les premières technologies pour le domaine étaient en 2010. Donc, c'était un lancement en juin 2012 au niveau français. Le partenaire était Orange, donc c'est quand même un gros lancement au niveau mondial. Donc, on se développe, le produit existe, il va sur le marché et il ne rencontre pas totalement son
marché.
Pour différentes raisons, son marché, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, le réflexe premier est de continuer, d'investir, d'améliorer.
C'est ça, parce que quand
vous avez
des sunk costs, c'est ça la difficulté quand on a investi autant.
De s'améliorer. Et un jour, on vous dit que la société, je vous parlais des investisseurs tout à l'heure, vous dit une réflexion qui n'a rien du tout à voir avec les compétences de R&D que nous avions en France, qui étaient réputées comme étant très bonnes, que... Intel va changer un petit peu de cap. Le marché du smartphone s'est énormément concentré et sans gagner des designs importants chez eux ou un des deux leaders mondiaux du smartphone, il va être difficile d'avoir un retour sur investissement.
Ouais.
Donc ça, c'est une décision directe. C'est la loi du marché, entre guillemets, qui n'a rien à voir avec les gens et les compétences. Donc c'est un moment difficile. Parce que vous avez la responsabilité d'efforts qui ont été faits pendant plusieurs années, mais surtout d'équipes qui ont été créées avec cette idée en tête, ce développement, cette passion. et là pour les réorienter ou les rediriger, ça peut être assez difficile. Et c'est difficile pour tout le monde, hein, de l'ingénieur dans les équipes, au management local, management de R&D, ou aux directions d'entreprise. Mm-hmm. C'est jamais des décisions qui sont très difficiles. Pour arriver en finale, les équipes d'ingénieurs ont été replacées dans une autre société qui continue à faire de la R&D de très haut niveau, avec des gens qui restent passionnés sur un autre segment que les smartphones. Mais ça n'a pas été facile. De cette expérience, il y a quand même beaucoup de d'apprentissage, au moins de mon côté, qui est un premier. D'avoir des très bonnes équipes, des gens qui sont compétents, ça peut ne pas être suffisant. C'est très, très difficile à s'en rendre compte parce qu'on s'associe complètement aux équipes, on en fait partie.
Ouais.
Et c'est de se dire, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment bon. Et puis, il y a des cycles sur le marché, il y a des compétences sur le marché. Il faut pouvoir se remettre en question pour ne pas être ou s'enfoncer et peut-être pénaliser encore plus les gens qui s'étaient complètement voués et qui ont fait du très bon travail. Donc, à partir de quel moment il faut réorienter, et quand on doit réorienter, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, est-ce qu'on fait un petit virement à bas-bord ou à tribord minime, 5 degrés, et on reste globalement sur les grandes transitions, ou on fait un virage complètement à 180 degrés? Le virage à 180 degrés, c'est pas facile.
Et j'imagine, oui.
C'est aussi beaucoup de risques et il faut le prendre en compte. Donc là, on a fait pour ces équipes-là un virage à 180 degrés qui, avec le recul, a certainement été le meilleur. C'était pas le plus facile à prendre. Ça aurait été plus facile de se dire, bon, on va essayer de s'améliorer un petit peu et on va continuer. On va demander encore plus d'investissement et on va essayer de progresser. Et en fait, on fait un effet de boucle de neige assez négatif globalement.
La difficulté, je trouve, c'est d'avoir ce recul, de se dire, en fait, non, il faut prendre la décision difficile, il faut faire le virage à 180 degrés et il ne faut pas essayer de pivoter de 5 degrés juste pour incrémentalement améliorer un petit peu la situation quand on sait qu'en fait, au fond de soi, peut-être, que ça ne va pas fonctionner, quoi.
Peut-être ce qui est plus dur, c'est de pas faire des choix par rapport à la difficulté de la décision, mais essayer d'anticiper quelle sera la meilleure décision. Et la meilleure n'est pas forcément la plus facile ou la plus difficile. Ce sont deux échelles qui sont complètement différentes. Mais assez fréquemment de faire des ajustements parce que c'est plus facile. On retarde une échéance, quelle qu'elle soit. Mm. On retarde une échéance. Donc la difficulté doit pas être prise en compte pour essayer de la minimiser et donc d'impacter la décision qui va être prise. Il faut penser au futur et se dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quelle aurait été la meilleure décision. Et même si c'est difficile à très court terme, ça fait partie des décisions qu'on doit prendre, pas quotidiennement, mais assez régulièrement. Donc garder un cap sur le moyen long terme, parce que c'est ça qui est important. Mm-hmm. Les petites victoires sont importantes parce qu'elles motivent et elles passionnent et elles peuvent montrer qu'on est dans la bonne direction. Mais une succession de petites victoires n'amène pas forcément vers la réussite ultime. Et ça, c'est très difficile même à communiquer, à comprendre pour soi-même et à pouvoir communiquer.
J'allais vous poser la question. Alors, le comprendre pour soi-même, ça, c'est, on ne va pas pouvoir en parler parce que j'imagine qu'il faut le sentir. Enfin, il y a des éléments chiffrés, mais au-delà de ça, la communication avec les équipes qui, comme vous disiez, ont travaillé longtemps sur un projet comme ça, qui sont des bonnes équipes en plus, qui ont extrêmement bien travaillé. Est-ce que vous avez... j'imagine que ça aussi, ça a été difficile. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Quelle a été votre organisation pour justement réussir à faire changer ce cap et faire adhérer? Ma question sous-jacente, c'est une question de leadership aussi derrière, parce que ces personnes ont adhéré visiblement à cette nouvelle vision, mais c'est quand même pas évidemment facile de faire passer d'un cap à un autre aussi brutalement.
C'est très compliqué. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mes passions, mais là, on parle à des gens qui ont leur propre passion, et le message, à un instant donné, est on va vous les retirer. Ça, c'est très difficile à entendre. C'est même pas acceptable pour la plupart. Donc, très rapidement, il faut pouvoir étayer, avoir une communication entre les passions qu'on va retirer et potentiellement celles qu'on va rejouer ensemble ou pas ensemble. Et donc, de donner un petit peu de cette visibilité-là. une visibilité à moyen terme sans un minimum de crédibilité, ça ne marche pas non plus. Donc il faut communiquer, il faut avoir une certaine transparence, il faut montrer qu'on fait des progrès, qu'on ne prend pas les choses à la légère et qu'on se redonne petit à petit une destination qui est au moins aussi intéressante, passionnante que la première. Mais on demande pas de bouger le gouvernail de 5 degrés d'un côté ou de l'autre. C'est, on change complètement de destination. Donc, on reprogramme le GPS pour là où on va arriver, plutôt que de dire, ah ben, on n'a pas fait le bon virage à gauche, donc on va tourner à droite. Ça, c'est pas suffisant parce que c'est des ajustements et les gens restent toujours sur la passion qu'ils avaient fait fonctionner jusqu'à maintenant. Et le seul moyen d'atténuer celle-ci ou d'atténuer cette déception, c'est de créer une autre passion.
Ouais, une nouvelle passion.
Les ingénieurs, les gens qui font de la R&D, c'est des gens qui sont passionnés. Sinon, ils ne font pas l'effort, ils sont pas suffisamment créatifs. Donc, il faut complètement qu'ils se sentent partie prenante, embarquée. Et là où ils vont ensemble, en tant qu'équipe, il faut qu'ils adhèrent complètement.
Ouais,
sans adhérer, on reste dans le passé, on reste avec un rétroviseur. C'est bien de savoir ce qu'on a fait et de s'appuyer dessus, mais ça peut pas être une direction parce qu'on tourne en rond en permanence.
Alors, je vais quand même vous ramener vers le passé parce que je voulais vous parler un petit peu de vous avant quand même la vie chez Intel. Donc, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez de formation ingénieur. Je voulais vous demander, ingénieur en électronique, vous vous êtes lancé là-dedans, c'était donc début des années 80, je crois. Ce qui à une époque était encore quand même le début, malgré tout, l'électronique et l'informatique de façon générale. Qu'est-ce qui vous a donné cette vocation et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes senti l'âme d'un ingénieur ?
Ça a été une révélation. Gagner du bac, vous savez, souvent on visite des écoles d'ingénieurs, etc., pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Et je fais une visite un samedi matin à une école d'ingénieurs à Paris, qui était rue Falguière, qui est maintenant... un petit peu plus loin, qui n'est plus dans Paris, Gessier, qui était en 79 la seule véritable école de microélectronique en France, avec une sac blanche. Une sac blanche, pour les gens non initiés, c'est une sac où on peut fabriquer du semi-conducteur.
Ah oui, donc on est dans le dur là.
On est vraiment dans le dur. Ils font visiter ça, on fabrique des choses, etc. Et surtout, les professeurs qui faisaient cette visite montrent un petit peu le potentiel qui avait. Moi, je sortais d'un bac mathématiques techniques. C'était un domaine qui était relativement nouveau, même si s'il m'intéressait, mais je projetais pas du tout sur ce que ça pouvait donner. Une visite d'un samedi matin, 3 heures un samedi matin, ça m'a convaincu. C'est le futur. Ce qu'on voit là, il y a pas d'inertie. C'est pas des choses qu'on fait depuis des siècles avec les livres d'éducation ou de classe qui sont les mêmes d'année en année, ils bougent un petit peu. Il y a tout à innover parce qu'on montre des choses, il y a même rien qui existe. Ça démarre de zéro. Donc cet effet, c'est pas vraiment page blanche, mais presque, pour des études, c'était waouh.
C'est grisant, ouais, c'est sûr.
Et donc ça n'a pas dévié.
D'accord.
Ça n'a pas dévié, c'était ça.
Donc vous êtes tombé dans la marmite, un peu par hasard finalement.
Pas complètement par hasard, parce qu'on se prépare. Quand on cherche une carrière, on s'intéresse, on essaie de visiter, de scanner un petit peu les possibilités. Mais une fois que je suis arrivé là, le scan était terminé. C'était ça, et faire probablement les efforts qu'ils font. Et là, on se retrouve une trentaine d'années plus tard, ou 40 ans plus tard, avec... c'est à refaire, mais bien sûr, ce sera à refaire. Et même si on voit toute cette informatique, enfin toute cette industrie, comment elle s'est développée, l'effet page blanche dont je vous parlais, j'imaginais 2-3 trucs super sympas à faire, mais le monde a fait des centaines de milliers, des millions de fois plus qu'on pouvait imaginer à l'époque. Donc
ça reste
le cas aujourd'hui, et ça s'accélère en permanence.
Et en tant qu'ingénieur, alors n'étant pas ingénieur moi-même, je suis toujours un peu fasciné par cet état d'esprit de vraiment rentrer dans le détail en fait du faire, de comprendre en fait les mécanismes, etc. Je voulais vous demander en tant que vous-même ingénieur, quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez justement une fascination pour le faire, pour le travail de création, de constitution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu plus tard? Est-ce que c'est plus cet état d'esprit justement tourné vers l'avenir qui vous a plu et qui vous a orienté vers la microélectronique? Ma question en fait sous-jacente, c'est étant plus petit, quel était votre rêve? Qu'est-ce que vous vouliez faire en fait tout simplement?
Quand j'étais petit, ce que je voulais faire, là, il faudra demander à mes parents ou j'ai un grand frère qui pourrait dire. Mais c'était devenir astronaute. Mais certainement, à cette époque-là, moi, j'avais 7 ans en 1969. Donc, les souvenirs de la conquête lunaire, c'était un petit peu à la télé, mais avec... j'ai grandi à Tahiti, donc la réception à la télé, c'était pas le direct, c'était pas tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait en France. Mais quand même, dans ma chambre, il y avait les maquettes de fusées, les maquettes de game, il y avait tout plus ou moins bien assemblé, parce que quand on a 7 ans, j'imagine que tout n'était pas parfait. Mais il y avait tout l'entourage. Et d'apprendre aussi de lire les livres, enfin, etc., pour vraiment se renseigner. L'astronomie était intéressante, mais la technologie pour y arriver, était encore plus, ça c'était une fascination à 7 ans. Et donc là, on se retrouve un petit peu plus tard sur certaines choses technologiques avec exactement les mêmes yeux grands ouverts. Toujours les mêmes.
Qu'est-ce qui vous a fait rentrer finalement chez Intel? Donc, a priori, vous étiez un petit peu prédestiné parce que vous faites donc ces études quand même dans la microélectronique. Mais est-ce que cette entreprise-là, avec le passé dont je parlais en tout début de notre discussion avec son fondateur, quand même très charismatique, Andy Grove, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit je veux me lancer en fait dans cette entreprise-là? Et surtout, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a étonné?
Donc déjà, entre la fin de mes études d'ingénieur et d'arriver chez Intel, j'ai passé quelques années chez NEC.
D'accord.
NEC était aussi une société de semi-conducteurs.
Ouais, japonaise.
Je suis resté fidèle aux semi-conducteurs toute ma vie depuis le samedi matin, on ouvre des grands yeux devant une sac blanche, jusqu'à aujourd'hui. Donc NEC, société japonaise de semi-conducteurs, qui était spécialisée plutôt dans les produits de grande consommation et de communication.
D'accord.
Donc de développer des produits qui rentraient dans des fax. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était un fax,
mais voilà.
Il y avait un petit peu d'électronique, des ordinateurs de bord de voiture quand on les programmait. Enfin, c'est
d'ailleurs,
ça que je
au
faisais.
Japon, ils sont encore assez friands de fax, pour une raison que j'ignore. Mais
oui,
bon.
Mais c'était l'innovation technologique et de communication à l'époque, parce qu'il y avait les Telex, etc.
Ça.
Donc il y a eu des phases, donc il faut pas sourire des anciennes innovations parce qu'elles ont permis de rendre possible celles que l'on voit aujourd'hui. Donc, mais donc après NEC, j'étais chez NEC, donc c'était on va dire de l'électronique et des technologies plutôt d'infrastructure, on va dire. Et Intel était le leader de l'informatique. Et il y a une grosse différence entre les deux. Donc de l'informatique, enfin l'électronique d'automatisation et l'informatique, c'est une grande différence. L'informatique, on parlait de l'informatique personnelle. Et Intel était le leader de ce domaine-là. Et c'était attractif parce que c'est pas qu'on fait un produit technologique qui est dans un coin, c'est qu'on va développer des programmes, des solutions, etc., pour faciliter la vie des gens. Et là c'est une grosse différence. Donc cet attrait ou cette vision du marché était intéressante. C'était le leader, c'était une société américaine. Pour moi, il y avait beaucoup d'attrait. Donc j'ai rejoint Intel en 1990, comme ingénieur commercial de base, c'est junior, et en ayant eu de multiples expériences, j'ai toujours une fascination pour la société, pour ses valeurs, pour sa capacité d'innovation. Vous avez parlé d'Andy Grove, avec son livre High Output Management. Son livre le plus connu en français s'appelle Seul et paranoïaque survivent.
Ah oui, c'est vrai.
Et qui est...
que je n'ai pas lu, mais la phrase est connue.
Qui est vraiment... Alors, High Output Management, c'était un livre avant Seul et paranoïaque survivent. En français, il s'appelait Le Management Multiplicateur. La préface était de Jean-Luc Lagardère, qui était le patron de Matra à l'époque. Donc, il a été très vu en France à cause de la préface de Jean-Luc Lagardère.
D'accord.
En France, c'était plus connu qu'Andy Grove cette époque-là. C'est un livre vraiment de management.
Oui, complètement. C'est vraiment un livre très concret de management.
Son deuxième livre, Seul et paranoïaque survivent, c'est lié à l'innovation. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est les cycles d'innovation. Chaque innovation... Quand elles rencontrent son marché, je ne parle même pas de celles qui n'ont pas rencontré leur marché, ont forcément un cycle de vie. Et quand une société est basée sur une innovation,
Une seule.
Eh ben, elle peut croître, parallèlement à son innovation. Quand l'innovation commence à arriver à un niveau de plateau, c'est très difficile pour la société qui porte cette innovation de continuer à se développer.
Ouais.
Donc, de deux choses l'une, soit on se réinvente, et c'est très difficile. Quand on a une innovation qui a beaucoup de succès, se réinventer, ça veut dire potentiellement abandonner ce qui a
Exactement.
Fait la société jusqu'à présent.
Et sa réputation.
Pour partir ailleurs. Soit on ne le fait pas et on attend. Et au bout d'un moment, l'innovation commence à péricliter ou à baisser. La demande sur le marché baisse et la société est attirée. Donc ça, c'est l'idée de base du livre « Ce n'est pas un AUX survive ». Et il y a une citation dans ce livre d'Andy Grove qui est assez intéressante. Il dit, dans la fin des années 70, début des années 80, il y a deux types de sociétés dans le monde, il y a les rapides et les mortes. Et la notion de rapidité, c'est pas forcément de faire les choses plus vite. C'est d'être très observateur du marché et de savoir se remettre en question rapidement. Ce qui n'est pas du tout la même chose, de faire toujours la même chose de plus en plus rapidement. C'est pas ça l'idée.
C'est de se réinventer, comme vous disiez.
De se réinventer. Et donc, il y a des cycles et de pouvoir les détecter. Ça peut être facile de les détecter, mais de les mettre.
En action, et de
se réinventer, de passer d'une société à 1 milliard, à 2 milliards, à 10 milliards, etc., par phases successives. Là, c'est très compliqué. Ça, lié à. Andy Grove, c'était un pionnier, véritablement un pionnier, c'est même pas un ingénieur ou même un innovateur, c'était un pionnier lié à cette vision du management. Ça a été une des plus belles expériences professionnelles que j'ai pu avoir, cette observation-là.
Vous me parliez justement de cette réinvention et du fait qu'il fallait pas louper le coche, entre guillemets, mais en fait, ça peut quand même faire peur. Je voulais vous demander au niveau de... Justement, quand on est une entreprise comme Intel qui doit se réinventer, alors évidemment, il y a le siège américain, etc. Mais enfin, vous avez quand même aussi des rôles à jouer là-dedans. Et puis même en tant que dirigeant, il y a un moment donné où quand même, vous avez votre responsabilité qui est aussi impliquée. Enfin, je veux dire, vous vous sentez, je pense, responsable. Est-ce que justement cette course à la réinvention qui est nécessaire, qui fait partie du processus de destruction créatrice, est-ce que ça, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui vous fait peur? Est-ce que ça a pu vous faire peur? Est-ce que vous auriez des exemples aussi, éventuellement, d'innovation que vous avez lancée avec Intel, où vous disiez, non mais... C'est quand même sacrément risqué. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Enfin, ma question, c'est quand on essaye de se réinventer, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Il y a ce rêve, mais la peur, pour moi, est quand même assez intrinsèquement liée. Et donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus.
Parce que moi, je me pose pas la question sur une course à la réinvention qui peut faire peur. Et une course à l'innovation qui est là et très attractive. Mais les deux sont très liés. Si vous voyez le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si vous avez un état d'esprit de crainte ou de peur, vous allez dire « Ah, il faut se réinventer ».
Mais en même temps, Andy Grove dit « Seuls les paranoïaques survivent ». C'est un petit peu négatif quand même.
Oui, c'est cinq mots de son livre.
Oui, bon.
Tout est aussi sur l'innovation, les plateaux d'innovation, etc. Et celle qui est plus importante pour lui, c'est toujours la prochaine. C'est pas celle du passé. Donc si on a un état d'esprit d'être porté sur les prochaines innovations, les prochains cycles, etc., on se pose même pas la question d'avoir la crainte de se réinventer naturellement d'une innovation à une autre ou d'une utilisation à une autre, parce que des fois je vous ai dit qu'on est Intel se positionne comme un innovateur au service d'innovateurs. Donc il y a les innovations que nous faisons et ce qui en est fait avec. Donc, on peut se réinventer en changeant nos innovations, les nôtres, les produits, les technologies qu'on met sur le marché. Mais on peut essayer de se réinventer, d'innover ou d'aider à l'innovation sur nos propres technologies, donc les usages qui se multiplient. Et si pour une même capacité de calcul, on va dire il n'y a que le marché, un marché bien connu, le marché du PC qui arrive, on sait qu'au bout d'un jour, au bout d'un moment, le marché du PC, il ne va pas continuer à progresser. Il va se tasser, puis il va peut-être descendre un petit peu. On essaie de le maintenir en valeur, etc. Mais avec la même puissance de calcul, on peut innover et trouver de nouveaux usages qui vont être des relais de croissance à travers l'innovation en partenariat, ou une innovation individuelle, ou une innovation de quelqu'un pour maintenir cette croissance, aller chercher des débouchés. Mmh. Vous savez que le premier microprocesseur, il a été inventé, ou il a été fabriqué par Intel en 1971. L'équipe de développeurs de ce premier microprocesseur avait pour idée de faire un automatisme pour les ascenseurs.
D'accord.
Et ils ont fait un microprocesseur pour automatiser les ascenseurs.
Ah ouais.
C'est-à-dire, j'appuie sur le bouton 1, ça va au bouton 1, le 2 sur le bouton 2, la porte, elle s'ouvre pendant 30 secondes et puis elle se referme, enfin, etc. Et tout ça, c'est reprogrammable. C'est pour ça que c'est un microprocesseur, c'était mieux qu'une logique, une logique normale, c'est reprogrammable. Donc, ils ont développé un microprocesseur avec ce marché-là qui est énorme en tête.
Oui.
Regardez ce qu'on fait avec les microprocesseurs aujourd'hui.
Tout.
donc, même si la réinvention n'a pas été sur le microprocesseur par lui-même, l'usage a permis de se développer. Donc, il y a toujours cette dualité dans les technologies. Qu'est-ce que la technologie fait et à quoi elle sert? Et il faut innover sur les deux côtés.
Ouais.
C'est une dualité qui est assez importante. Une est très technologique et l'autre est plutôt marché.
Sur les usages.
Acceptation, presque marketing au sens marketing du terme. Le marketing très, très valorisant de rencontrer son marché. Quand je disais tout à l'heure, rencontrer son marché, une technologie peut être exceptionnelle. Le produit très bon ne rencontre pas son marché, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un grand écart qui s'est un petit peu loupé, puis boum, on est plus stable. Donc, une des capacités d'Intel a été toujours régulièrement d'essayer de se réinventer ou d'innover sur ces deux axes-là.
D'accord, je comprends mieux. Vous-même, donc vous arrivez chez Intel, vous me disiez en tant qu'ingénieur commercial, assez rapidement, donc vous montez les échelons. Et j'ai vu dans votre parcours, si je ne me trompe pas, que vous êtes allé en Allemagne à un moment donné. Donc, vous êtes parti pour Munich. Et je voulais vous demander, donc cette décision, est-ce qu'elle a été assez fondamentale dans votre parcours chez Intel? Et pourquoi aussi est-ce qu'il était aussi important de quitter la France pour vous, peut-être au niveau du poste, je ne m'en rends pas compte, mais aussi au niveau de la carrière internationale? Je vous pose cette question parce que j'ai beaucoup aussi de managers qui écoutent le podcast et qui, je pense, se posent parfois ces questions. Je sais en plus que ça peut poser quand même des problèmes au niveau de la famille. Il me semble que vous étiez marié à l'époque. Donc, je peux imaginer qu'au niveau du processus de division...
Je sais.
Mais donc, c'est que ça a fonctionné. Vous en avez bien discuté en interne, si je puis dire. Mais justement, ma question, c'est est-ce que vous pourriez me parler un peu de votre processus de décision à ce moment-là et notamment aussi à la fois au niveau professionnel, mais au niveau personnel, si c'est possible, pour comprendre justement ce qui vous a poussé à le faire.
Alors déjà, on va commencer professionnellement.
Professionnellement,
je n'ai l'idée n'était pas de quitter la France. N'était pas d'aller en Allemagne.
D'accord.
C'est essayer de toujours mieux comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure et la société qui m'emploie toujours. Pourquoi en Allemagne? Parce que c'était un centre marketing européen. Tel que je viens de vous parler, entre une technologie, elle est aussi bonne soit-il, si elle ne rencontre pas son marché, au bout d'un moment, il y a un problème. Le centre de marketing européen était en Allemagne. Il n'y avait, pour ainsi dire, pas de marketing en France.
D'accord.
Donc là, c'était vraiment se rendre compte que quand on est ingénieur et qu'on a progressé, on a développé des produits ou de trois choses. Après, ce qui est important pour en faire un business et pour avoir du succès,
c'est de savoir le vendre.
c'est de mieux appréhender le marché.
Et c'est hyper intéressant. Je me permets de vous interrompre, c'est une réflexion que vous êtes fait, entre guillemets, tout seul, parce que je caricature un petit peu, mais c'est vrai, quand on est ingénieur et surtout qu'on est passionné par son métier d'ingénieur, parfois on n'a pas nécessairement envie, je caricature hein, évidemment, mais on peut ne pas avoir de passion pour le marché, pour le client, pour le marketing, qui sont souvent des concepts qui peuvent être, on va dire, dans l'inconscient, considérés comme des soft skills, et pas forcément le cas d'ailleurs. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment, ou vous êtes formulé peut-être chez Intel de vous confronter en fait tout simplement au marché?
Complètement chez Intel. Moi j'avais une âme d'ingénieur, et chez NEC j'ai continué d'avoir une âme d'ingénieur. Chez Intel, je suis arrivé en 1990 chez Intel. En 1991 a été créé le programme qui s'appelle Intel Inside. Alors les gens qui ont fait un petit peu des études de commerce, je ne sais pas si c'est toujours des cas utilisés, mais le programme Intel Inside au début des années 90, était presque aussi révolutionnaire qu'inventé le microprocesseur dans les années 70. C'est-à-dire, d'un produit qui est très technologique, il n'y avait aucune société qui faisait du marketing grand public ou du marketing orienté vers les utilisateurs, société de technologie de composants électroniques, il n'y en avait aucune. Intel arrive avec une idée, Vous vous souvenez, je vous disais, c'était pour moi, c'était l'informatique personnelle, quelque chose rapproché de l'utilisateur. De se dire, si on veut vraiment se rapprocher des utilisateurs, il faut leur parler. Et donc, il y a eu ce concept Intel Inside qui voulait dire, vous achetez une machine, vous achetez un PC, la marque Intel Inside, le logo Intel Inside que vous allez retrouver sur la machine est gage de technologie avancée, et gage de qualité, et gage de performance, et gage, enfin, etc. Et comme on a été les premiers à le faire, c'était page blanche. À nouveau, du côté marketing technologique, c'était page blanche. Il y avait personne qui revendiquait plus de performance, plus, etc. Le marché n'est toujours pas aussi simple. Il y a toujours des compétiteurs et souvent, on les voit, on les rencontre en permanence. C'était en 90, c'est toujours les mêmes. Et même aujourd'hui, et donc, ils sont performants, mais il y avait pas cette vision de parler au marché en tant que fournisseur d'un produit qui est extrêmement compliqué et dont l'idée n'était pas d'expliquer ce que c'était comme produit, mais potentiellement ce qu'on pouvait faire avec et de s'associer la marque Intel à ce qu'on pouvait faire avec.
C'est ça.
Donc ce programme marketing-là a été professé dans des années, dans toutes les bonnes écoles de commerce, y compris en France, hein, HEC, l'ESSEC, INSEAD. Mes premiers séjours à INSEAD, je suis tombé sur le cas d'Intel. J'ai refait un MBA en 2010. Le cas d'Intel était toujours présent dans les cours en 2010. Je parle de 1991.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc ça a pris quand même un petit peu de temps. Et ça, c'était vraiment l'ouverture au marketing. Et pour moi, c'était pas d'être blasé sur la technologie, mais là, c'est une autre dimension qui s'ouvre. Et si le marketing arrive à rencontrer la technologie ou réciproquement,
c'est ça.
Le marché ouvert, il est décuplé. Décuplé. Donc, c'est ce qui m'a intéressé à m'orienter vers du marketing. Ça voulait dire Munich. Il y a pire comme endroit au niveau européen. Ça voulait dire Munich. J'étais marié, deux enfants. D'ailleurs, en Allemagne, mon épouse est italienne.
C'est pas si loin.
J'étais celui qui parlait mieux allemand en ayant fait deux années
mais au lycée. J'allais vous demander si vous parliez allemand. Non. Bon, ceci, les Allemands parlent très bien anglais. Mais...
Donc, les enfants, non. Ouais. Par italien et français.
Ça devait vous changer de Tahiti aussi, quand même.
Ça change quand même pas mal de Tahiti. Donc, on est allés ensemble, en famille. Ma fille rentrait en 6e et mon fils rentrait au CP. Donc, on va dire, en tant que famille, ça peut être le bon moment pour faire un changement. On est allés ensemble. On a eu la chance de trouver une ville qui est absolument admirable sur plein de côtés. On est resté quasiment 8 ans. On est parti pour 2 ans, on est resté quasiment 8 ans.
Donc vous parlez parfaitement allemand maintenant.
Je l'ai un petit peu oublié
oui,
depuis.
Ça s'oublie
mais, un peu. Mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai un fils qui habite toujours en Allemagne et avec deux petites filles qui sont bavaroises.
Voilà,
donc
ça depuis, vous a...
Depuis le temps. Donc j'en déduis que pour les enfants, ça a été une belle expérience parce qu'au moins un des deux y est toujours.
Je vois ça. Et donc, vous rentrez en France ensuite. Et un des sujets que je voulais évoquer avec vous, c'était le management et puis aussi la responsabilisation. Donc, quand vous rentrez en France quelques années plus tard, si on passe un petit peu le temps, donc vous devenez d'abord DG, puis président d'Intel France. Et puis maintenant, vous avez même des responsabilités au niveau européen. Votre quotidien, j'imagine, change à ce moment-là. Vos responsabilités changent. Votre équipe change aussi, certainement. Je voulais vous demander quels avaient été les grands challenges, en fait. Peut-être aussi... quelles ont été vos premières actions quand vous êtes arrivé à des postes vraiment de direction générale chez Intel?
C'est toujours les préoccupations du moment. C'est à savoir pouvoir fédérer des énergies, des gens et fonctionner à l'énergie et à la motivation depuis mon premier jour. Peut-être c'est comme ça que je fonctionne moi-même. Donc j'essaye... on essaye en groupe. Quand on est tout seul, on se motive en regardant et en lisant. Et quand on est en groupe, ça doit être la même chose. Des dynamiques de groupe par rapport à des dynamiques individuelles, c'est pas la même chose.
Bien sûr.
Développement d'une personne ou la somme des développements de chacune des personnes dans un groupe, c'est pas égal au développement du groupe. Donc il y a des notions qui sont importantes, mais qui j'espère restent cadencées par la motivation de ce qu'on fait ensemble, qui peuvent être basées sur la technologie. C'est important pour certains. La passion, c'est la technologie. La passion, c'est le marché. La passion, c'est le pouvoir changer. La passion, c'est de pouvoir faire travailler dans des segments qui sont très émotionnels. La santé, par exemple. Et toutes ces sommes de petites satisfactions, de satisfactions individuelles, quand on arrive à fédérer un groupe, ça fait des satisfactions, des motivations de groupe. Donc, il faut toujours injecter.
Ouais, cette motivation.
Injecter.
Mais ça se sent.
Pour gagner de la motivation.
C'est ça, ça se sent. Mais justement, donc en fait, on parle quand même depuis le début de leadership. C'était donc des choses, moi, enfin, ce sont des sujets qui me passionnent et que je trouve en plus très compliqués. Puis il y a 1000 formes de leadership différentes. C'est difficile comme question parce qu'elle est très générale, mais est-ce que vous pourriez me parler peut-être et donner un conseil aux auditeurs sur soit les plus grandes erreurs que vous avez pu voir autour de vous en matière de leadership, de management, et puis aussi peut-être les conseils ou les révélations ou voilà, les réflexions que vous êtes faites sur le sujet qui vous ont aidé justement à inculquer, à donner cette passion, cette motivation aux équipes qui vous entourent.
Je pense peut-être les erreurs en essayant de m'observer moi-même sur mon vécu, mais peut-être les gens, c'est de pouvoir regretter un jour de ne pas avoir fait ce qu'on voulait faire. Parce que on n'a pas eu le courage, parce que c'était difficile, parce que l'accompagnement, parce que l'opportunité. Toujours important d'arriver à faire ce qu'on souhaite faire, de se garder un moment pour faire ce qu'on souhaite faire. Pour moi-même, pendant très longtemps, je fonctionnais en me disant j'ai 24 heures dans la journée. Si j'avais une 25e heure, qu'est-ce que je ferais que je n'ai pas fait dans les 24 heures qui sont disponibles. Qu'est-ce que je ferais dans cette 25e heure? Et ne serait-ce que se poser la question comme ça. C'est-à-dire, ah, il y a un gap. Ah, il y a quelque chose qui est intéressant. Posez-vous cette question régulièrement. Il y a toujours une réponse qui vient. Si vous n'avez pas de réponse, soit vous êtes très, très heureuse, soit peut-être vous êtes blasé. Je préfère une des deux réponses, certainement. Ouais. Mais
ouais, j'aurais même peut-être besoin d'une 26e heure aussi, mais bon.
Mais on peut commencer par une 25e. Voilà. Une 25e heure. Se poser la question sur cette 25e heure. Il y a forcément des réponses qui viennent. Ouais. Et après, immédiatement, si vous avez noté ces réponses, qu'est-ce qu'il faut faire pour les réaliser?
Et alors, du coup,
vous la priorisez
même devant le reste?
Parce que si je regrette de ne pas avoir le temps de le faire, c'est que j'y tiens. C'est que j'y tiens. Donc, il faut la faire rentrer. Et ça, c'est une... Et donc, on gagne en efficacité ici, on gagne en efficacité là, on laisse tomber des choses qui sont un peu moins importantes. Parce que cette 25e heure, c'est celle qu'on pourra regretter plus tard. Donc, il faut pas la regretter. Donc il faut savoir se poser la question et après faire l'effort qu'il faut. Mais on se rend compte que ce n'est pas forcément un effort insubmersible.
J'ai une question un peu personnelle, mais ça m'intéresse beaucoup parce que je suis dans le cas de figure. Je vous dis que j'ai besoin d'une 25e et peut-être même d'une 26e heure. À quel moment est-ce que vous posez la question? Concrètement, c'est quelque chose que vous essayez de faire tous les matins avant d'aller au travail? Je ne sais pas, c'est le soir, c'est en discutant avec peut-être votre épouse? À quel moment est-ce que vous prenez le temps de vous dire quelle va être mon activité de ma 25e heure?
Je pense pas qu'il y ait des moments
ritualisé
ça. Mais je les crée quand je sens que j'ai une certaine frustration.
D'accord.
Et ça me permet deux choses, déjà de réfléchir et d'évacuer la frustration. Parce que je me remets sur une dynamique positive. En disant, tiens, il y a des choses ça peut arriver dans la voiture, ça peut arriver le soir, on se réveille la nuit, hein. Souvent, les frustrations, ça réveille la nuit.
C'est vrai.
Malheureusement, c'est pas les passions qui réveillent la nuit, c'est les frustrations qui réveillent la nuit. Donc, comment vous tournez ça, positivement? La réflexion avec vous-même. Mais ça peut être aussi en groupe de se poser des questions dans des échanges avec une personne. C'est un échange, ça commence à l'échange avec soi-même, mais ça descend des échanges avec personne. Donc il n'y a pas un instant donné.
D'accord.
Ah, tous les vendredis, 18h,
on peut. Moi, j'aime bien, j'avoue, créer un peu des petits rituels pour réfléchir, enfin, si vous voulez me forcer à le faire, mais je comprends que vous n'ayez pas besoin.
Mais si, on a besoin, pas forcément du rituel, mais de pouvoir y penser. Parce que des frustrations, au long d'une journée, on en a beaucoup. Donc il y en a qui vont peut-être se mettre à respirer. Pour atténuer, pour reprendre une certaine cadence, enfin, etc. Puis il y en a d'autres qui vont penser à tiens, qu'est-ce que en ce moment j'aimerais faire que je ne fais pas.
Merci beaucoup Stéphane pour ce conseil. J'aime bien terminer le podcast par vous poser des questions qui sont un peu toujours les mêmes, mais qui m'intéressent beaucoup parce que ça me permet de vraiment comprendre concrètement quel est votre quotidien? Et donc, la première question de cette série, c'est en général que vous me décriviez votre journée type. Si vous pouvez rentrer dans le détail, n'hésitez pas à me dire, bah voilà, moi, j'aimerais bien savoir, Stéphane Nègre, à quelle heure il se réveille le matin? Qu'est-ce qu'il fait quand il se réveille? Ensuite, est-ce qu'il va au travail? À quelle heure est-ce qu'il y arrive, etc. Vraiment que vous nous fassiez un petit peu vivre votre vie de dirigeant d'entreprise.
Je me réveille avant 7 heures, donc pas très tôt.
Bon, c'est raisonnable.
Premier point, bien. Les emails.
D'accord.
Je suis une société américaine. Bah donc, oui. Quand on se couche, ils continuent à travailler. Mm. Donc, il y a certainement des choses à répondre. Mm. Si je réponds avant 7 heures, avant 8 heures le matin, j'ai une chance d'avoir une réponse parce que les gens ne sont pas encore couchés.
Ouais.
Donc, je tiens à ce petit créneau. Ils sont sur la côte ouest, il y a 9 heures de décalage, donc c'est 23 heures.
Ouais.
Donc, c'est toujours actif, il y a toujours un échange possible.
Ouais.
Une demi-heure après, une heure après, il n'y a plus ouais. d'échange possible. Donc, on perd presque une journée d'échange, ce qui est dommage. Donc, ça, c'est cadencé le matin. Petit déjeuner rapide. Bref, j'essaye de le rendre assez sain et léger.
Ouais.
Je suis au bureau aux alentours de 8 heures. Là, c'est plus les réponses avec les US, mais c'est préparer un peu, s'organiser, de savoir ce qu'il y a. Les gens, globalement, arrivent majoritairement vers 9 heures, donc ça me permet d'avoir
une petite heure de
présentation. Là. Et après, c'est très cadencé. De 9 heures jusqu'à 19 heures, c'est cadencé par heure. C'est-à-dire, on est dirigé un petit peu par calendrier, c'est des meetings d'une heure chez Intel pour avoir une certaine rigueur et une efficacité. Donc, des meetings d'une heure, boum, boum, qui s'enchaînent les uns après les autres. La partie déjeuner est importante. Je ne saute jamais mon déjeuner. Ça peut être un déjeuner de travail, bien sûr, mais
oui,
je ne saute jamais mon déjeuner. Sinon, l'après-midi, j'ai
c'est
un petit creux.
C'est difficile, un petit coup.
Donc, j'ai besoin de ça. Et puis après, on continue au bureau jusqu'à 19h à peu près.
D'accord.
Je rentre en famille. Depuis que mes enfants étaient tout petits, ils ne sont plus à la maison. Mais le dîner familial est important.
D'accord.
Et après dîner, il peut toujours y avoir les échanges d'emails ou pas. Des dîners professionnels, ça arrive. Il y en a assez fréquemment. Donc, il n'y a pas de soirée vraiment typique, mais
oui,
si c'est possible, dîner en famille. C'est la priorité.
Bien. Vous avez créé quand même des petites poches, on va dire, de rituels.
Il faut.
Une autre question. Alors, vous m'avez parlé à plusieurs reprises un peu de votre alimentation en sous-jacent. C'est pas forcément précis comme question, mais il me paraît toujours important de savoir au niveau alimentation, au niveau du sport, au niveau du sommeil, au niveau de l'hygiène de vie de façon générale. Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de grands principes pour vous aider à tenir votre rythme de travail qui est très important, des choses qui vous font tenir dans la durée? Et dont vous pourriez nous parler.
Je fais depuis des années avec des amis du VTT. Et j'ai trouvé au fil des années que c'était la meilleure efficacité pour moi pour évacuer du stress. Les gens qui font du vélo savent que c'est parfois difficile. Enfin, c'est exigeant, physiquement, c'est exigeant. Mais quand on fait du vélo, on pense à tout et à rien.
Ouais.
Et donc c'est un moment où on peut se permettre d'être soi-même avec des collègues qui sont à peu près du même âge. On fait du vélo ensemble depuis des années, donc on vieillit, on a à peu près le même niveau, et c'est important. Donc
sans indiscrétion, c'est des sorties de combien de temps? Parce que VTT, ça peut être très long en plus.
Oui, ça dépend, c'est entre 2 et 3 heures de sortie.
Et donc,
dans la vallée de la Bièvre, j'habite à Juin-Josas, donc c'est dans la vallée de la Bièvre.
Génial.
C'est agréable, c'est dehors, c'est
nature.
En forêt, c'est individuel, mais
un
en groupe.
Un moment de décompression, oui, c'est ça.
Et ça permet d'échanger, et c'est l'effet de cette sortie ou de ces sorties dans la semaine. Pour moi, c'est idéal. C'est idéal parce qu'on se vide complètement. Donc ça vide du stress. Quand je ne l'ai pas, ça me manque. Ça me manque. Pas uniquement d'avoir fait du vélo. D'avoir pu évacuer ce stress. Donc ça, c'est important. J'ai eu un souci de santé lié au VTT, assez important. C'est-à-dire qu'on a dû m'extraire de la forêt, j'étais dépendant. Et puis avec...
Parce que j'allais vous dire quand même que le VTT, vous n'avez pas choisi le truc le plus...
Quand on arrive à une cinquantaine d'années, malheureusement, si on n'est pas suivi tout de suite, maintenant je suis suivi, donc c'est bon, je vais paramétrer... Mais un accident peut arriver. Donc il arrive, on l'extrait de la forêt, on fait 9 jours de réanimation.
Ah oui.
c'est, sérieux, quoi. Un des éléments de motivation après professionnel, mais presque physique, parce que j'ai pris ça comme une chute physique, pas intellectuelle, comme un problème physique, était de se dire, il faut que je puisse refaire du VTT. Et là où le cardiologue et la famille disent, non, mais il faut que tu vas pouvoir te mettre au golf, tu vas pouvoir...
faire la marche.
acheter une petite voiture de collection pour se dire, tiens, ça m'a changé un petit peu. Et au bout d'un an, quasiment jour pour jour, je suis remonté sur mon VTT tout doucement. Ça fait 2012, ça fait 7 ans. J'ai refait au mois de juin, donc un mois, ma première nouvelle course de VTT après mon accident, 7 ans après. Mais c'est une énorme satisfaction. C'est une énorme satisfaction. Donc on se met petit à petit. Et je l'ai mis vraiment sur des objectifs physiques pour bien séparer pour bien séparer deux. C'est important et d'avoir cet objectif-là, ben ça m'a permis de reprendre une vie professionnelle normale parce que le challenge que je me donnais physiquement lié au VTT m'a permis de le reconstruire en tant que personne physique. C'est pas toujours facile.
Non, c'est évident.
Pas toujours facile.
Écoutez, en tout cas, vous avez l'air en pleine forme maintenant. Ça fait plaisir.
Merci.
Deux dernières questions. Au niveau du sommeil, c'est une question qui me fascine beaucoup. J'ai malheureusement plutôt un mauvais sommeil et je me pose la question toujours des grands dirigeants d'entreprise. S'ils ont des rituels pareils de sommeil, est-ce que déjà vous dormez bien? Et deuxièmement, combien de temps est-ce que vous dormez? On dit de plus en plus qu'il est important de dormir 7-8 heures par nuit. Évidemment, personne ne le fait. J'aimerais savoir, quelle est votre conception de la nuit?
Je suis 7-8 heures par nuit dans mon lit.
D'accord, donc vous êtes comme moi. Mais
c'est du fragmenté.
Ouais.
C'est du fragmenté. Et c'est donc il y a...
Mais au moins, vous êtes 7-8 heures par jour dans la nuit, dans votre lit. C'est déjà pas mal.
Régulièrement. C'est du fragmenté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, toujours des phases de réveil. Et puis on pense. Pas toujours pour compter les moutons, mais on pense. Et ce qui me rendort, c'est d'avoir une pensée qui m'a semblé efficace.
Ah ouais.
Presque quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression d'avoir une réflexion en dormant qui me préparait à ce que je devais faire le lendemain. Ouais. Et je me réveille, je me dis, mais j'ai rêvé ou pas, mais presque une présentation de se refaire la présentation quasiment en dormant. Parce que c'est un demi-sommeil, mais c'est quand même une phase d'activité. On se réveille le matin, les idées sont super claires. Tant que je me réveille le matin, que les idées sont claires, il n'y a pas de souci. Quand on se réveille le matin, qu'on est embrouillé, là, ça a été une mauvaise nuit.
Je comprends. Et vous arrivez de prendre des notes, du coup, pendant la nuit, quand vous avez ces idées?
Non.
Non, pas trop. Elles restent. Non. Soit elles sont bonnes, elles restent.
Elles restent, elles font partie de la préparation, je pense qu'elles restent.
Très bien. Et alors du coup, ma dernière question, pour terminer, j'aime bien toujours demander à mes invités s'ils ont des livres qui les ont particulièrement marqués, des livres qui, sans avoir changé votre vie, ont peut-être vraiment changé une conception que vous aviez sur vous-même, sur le monde, et dont vous pourriez nous parler.
Quand j'étais étudiant, je suis tombé sur un livre, pas complètement par hasard, de José Luis Borges, Fiction.
Ouais.
Si
incroyable,
vous connaissez,
bien sûr.
C'est une succession de nouvelles qui sont portées sur des thématiques poussées complètement au bout, la mémoire. Et je vais essayer de comprendre jusqu'où la mémoire peut aller.
Oui, c'est exceptionnel.
L'observation, jusqu'où ça peut aller, enfin, etc. Et il en a fait plusieurs. Fiction est toujours resté, enfin, pendant des années, je l'ai acheté plein de fois pour le donner à chaque fois. C'est resté un livre.
Quelle est la nouvelle qui vous a le plus marqué?
Il y en a différentes, peut-être la Tour de Babel. Donc...
L'histoire de la Tour de Babel.
L'histoire de la bibliothèque sans fin. Mais il y a plein de livres comme ça qui sont un livre sans fin. J'ouvre un livre et il y a toujours des pages entre un livre. Donc de pousser un raisonnement vraiment au maximum. Mais cette notion du sans fin et la notion de l'innovation, je trouve qu'elle se reboucle complètement. Parce que l'innovation, c'est presque une course permanente et il y a toujours quelque chose. Comme le livre, entre deux pages, il y en a toujours une page dans le livre. C'est le livre de Sable, Saxy, la nouvelle. L'innovation, c'est pareil. C'est un livre sans fin.
Il faut une soif inépuisable de progrès.
Et quand il y a une grosse innovation, sur la page même de l'innovation, on peut quand même rouvrir et puis la disséquer et l'envoyer dans différentes pages. Donc, cette illustration-là, peut-être que ça a forgé un certain état d'esprit, mais l'ouverture de ce livre, quasiment de la première page fiction, c'était le premier jusqu'à la dernière page, c'était une révélation quasiment page par page.
Eh bien, écoutez, Stéphane, merci beaucoup. Et je recommande d'ailleurs aux auditeurs de lire ce livre qui est absolument exceptionnel, effectivement, en espagnol s'ils le peuvent aussi, parce que la langue est belle. Mais la langue est belle aussi. Merci mille fois pour votre temps. Si jamais les auditeurs du podcast veulent vous suivre, est-ce qu'il est possible de vous retrouver? Alors, via en suivant évidemment toutes les activités d'Intel, peut-être aussi.
Sur Twitter.
Voilà, sur Twitter, c'est ça?
Sur LinkedIn aussi, professionnellement,
c'est ça. Et donc c'est Stéphane Nègre sur Twitter.
Stéphane.nègre. Très bien. Comme Stéphane Nègre.
Je mettrai ça dans les notes. Je vous remercie mille fois.
Merci à vous.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.